vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans l'épître de Paul aux Galates. Et nous débutons dans ce message le chapitre 4. Mon texte est du verset 1 au verset 7. Galates chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Et j'ai intitulé ce message « Héritier de la grâce ». Qu'est-ce que c'est d'être héritier de la grâce? Et ici, dans les trois premiers versets, nous voyons une illustration et une application comparant un enfant et un esclave. Ça va nous conduire un peu dans la culture du jour, mais lisons d'abord les trois premiers versets. Pour débuter, c'est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, et enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Ici, c'est lié encore à ce que Paul avait déjà écrit dans le chapitre précédent. Les chapitres sont insérés, surtout par les éditeurs, mais si nous lisons ici, ça commence avec le mot « or », ce qui nous ramène encore dans le verset 29 du chapitre 3. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, notons, héritier selon la promesse que Dieu a faite à Abraham de faire sortir de ses reins une postérité, c'est-à-dire Christ. » Ça, c'est dans Galates 3, 16. Donc, tout cela, c'est lié. Et ainsi, Paul continue ce sujet pour expliquer. Alors, ceux qui sont véritablement hérités de la grâce, héritiers, on peut même dire héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham. L'héritier, c'est écrit tant qu'il est enfant, dans le verset 1. Le mot enfant évoque l'idée d'un mineur, évidemment. Cela ne suggère pas un âge spécifique, mais plutôt quelqu'un qui n'est pas encore légalement reconnu comme un adulte. Dans les cultures juives et grecques, il y avait des cérémonies de passage à l'âge adulte. Et je crois que nous avons cela dans plusieurs sociétés, où un garçon cessait d'être un enfant et commençait à être un homme, avec des droits légaux en tant qu'héritier. Ici, aux États-Unis, cet âge est souvent l'âge de 18 ans, qu'on reconnaît qu'un enfant maintenant est adulte. Dans d'autres cultures, ça diffère. Mais dans la coutume romaine, il n'y avait pas d'âge spécifique où le fils devenait un homme. Cela se produisait lorsque le père pensait que le garçon était prêt. Donc, c'était le père qui déterminait cela. Lorsque Paul utilise l'expression « jusqu'au moment fixé par le père » que nous voyons dans le verset 2, il montre qu'il avait plus en tête la coutume romaine de passage à l'âge d'adulte que la coutume juive. un enfant romain devenait adulte lors de la fête familiale sacrée connue sous le nom de Liberalia, Liberalia, célébrée annuellement le 17 mars. À ce moment-là, l'enfant était formellement adopté par le père en tant que fils reconnu et héritier, et recevait la toge virile en remplaçant de la toge prétexte qu'il portait auparavant. Donc, toute une cérémonie selon la coutume romaine. Tant qu'il est enfant, c'est écrit ici dans notre texte, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Alors, de quoi s'agit-il? Pensez à un foyer ancien et riche, surtout avec un jeune garçon destiné à hériter de tout ce que son père possède. Lorsque le garçon n'est encore qu'un enfant, il a en réalité moins de liberté et d'autorité au jour le jour qu'un esclave de haut rang dans le foyer. Souvent, les riches avaient des esclaves dans leur foyer et ces esclaves avaient aussi leurs enfants dans ces foyers. Donc, lorsque l'héritier et ses enfants d'esclaves s'amusaient ensemble, on ne pouvait pas distinguer. Pourtant, un d'entre ses enfants était destiné à tout hériter et l'esclave ne l'est pas. Donc, vous voyez cette différence. C'est de cette coutume alors que Paul va tirer quelques exemples pour nous, comment nous sommes maintenant libres en Christ. Pourtant, on était pendant un certain temps sous la loi. Cela veut dire les exigences de la loi jusqu'à ce que Christ soit venu et qu'il a tout accompli à l'égard des enfants de Dieu. En fait, l'héritier est sous le soin strict des tuteurs et intendants jusqu'au moment fixé par le Père. Ça, c'est le sens que nous voyons dans le verset 2. Et donc, vous voyez ensuite de même. Donc, voici maintenant la comparaison avec notre propre condition spirituelle. Nous sommes fils de Dieu par la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. Ça, c'est déjà cité dans Galates chapitre 3, le verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la foi qui réside en Jésus-Christ. C'est cette foi qui révèle Jésus-Christ. Et c'est ainsi que ceux qui sont fils de Dieu sont fils par Jésus-Christ. Et aussi dans le verset 29, nous sommes héritiers selon la promesse que j'ai déjà citée tout à l'heure. Mais la loi était considérée comme notre tuteur dans les versets 24 à 25 de Galates 3, avant que la foi vînt. Et nous avons vu que là, on peut remplacer le mot foi avec le nom de Christ, avant que Christ vînt. Nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi ou de Christ qui devait être révélé. C'est pourquoi Paul utilise cet exemple. Même ceux qui sont élus de Dieu depuis avant la fondation du monde étaient sous la tutelle, si vous voulez, sous les demandes, exigences de la loi. Et si Christ n'avait pas payé la dette, même pour ses élus, il serait condamné comme le reste. Mais étant désigné comme héritier, avant même que Christ ne vienne, néanmoins les élus étaient sous la garde de la loi, en attendant la venue de Christ. Et maintenant, c'est écrit, la loi, verset 24, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, ou bien jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, là encore par Christ, la foi étant la révélation de Christ. Nous ne sommes pas justifiés par notre croyance en Christ, mais par la foi qui est en Christ. Donc, verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous voyez alors pourquoi Paul prend le temps d'expliquer la coutume romaine et pour démontrer cet exemple de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament sous la garde de la loi jusqu'à ce que Christ soit venu. Et notons, comme c'est écrit là, au temps marqué par le Père, jusqu'au temps marqué par le Père. Vous pouvez relier ça avec le verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, tout ce temps où les enfants de Dieu étaient sous la loi, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Ceux-là étaient ses enfants. Et c'est à la croix que ceux-là étaient maintenant libérés. Ça, c'est le temps marqué par le Père. Et il continue là à parler dans le verset 3, nous aussi, de la même manière. Ça, c'est la comparaison. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des notons, rudiments du monde. Ici, Paul utilise une expression intéressante. Pour le décrire, Paul utilise le mot, dans le grec, c'est stoïcha, ou bien stoïcha. Et cela avait à l'origine une ligne de choses. Par exemple, cela pouvait signifier un rang de soldat, mais cela est venu à signifier plus tard ABC, puis alors toute connaissance élémentaire, aligner les choses dans l'ordre. Et donc, on peut traduire ça de même, nous, quand nous étions de jeunes enfants étions maintenus dans l'esclavage de l'ABC de l'univers, parce que ça parle là des rudiments du monde. Donc l'idée de l'ABC de l'univers est importante. S'il y a un ABC de l'univers, c'est-à-dire les principes élémentaires dont nous devons nous libérer, et qui est souligné surtout dans la religion païenne, le fait d'être élevé même dans la fausse religion, c'est les rudiments du monde, ce que le monde nous prescrit. Donc c'est de ça que nous avons besoin d'être libérés. Paul ici dit aux Galates qu'ils ont besoin de dépasser cet ABC de l'univers. Et je dois dire que la compréhension de beaucoup de gens n'est pas plus que cet esclavage des rudiments du monde. Cela veut dire, étant dans la chair, ils continuent à raisonner selon la chair. Et c'est de cette manière qu'ils lisent la Bible, avec une pensée naturelle. Pourtant, pour lire la Bible, ça exige l'œuvre de l'esprit et une compréhension spirituelle au-delà des ABC de ce monde. Voilà ce que Paul est en train de décrire là. sous la grâce de Dieu, nous ne sommes pas alors traités sur la base de ce que nous méritons pour le monde. La pensée humaine naturelle est que pour gagner le ciel, il faut œuvrer, il faut travailler. Ça, c'est les rudiments du monde. Mais notre salut ne peut être basé sur ces ABC rudimentaires du monde que le monde poursuit. Mais nous avons besoin d'une œuvre de grâce. Et voilà comment Paul explique cette différence donc entre ceux qui sont enfants de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon ce que Dieu lui-même a ordonné par rapport à ceux qui sont encore esclaves à leur nature pécheresse, et qui sont adonnés aux rudiments du monde, cela veut dire aux prescrits du monde. Ils poursuivent les philosophies du monde que de voir ce que Dieu lui-même révèle en Christ à travers sa parole. Bien sûr, nous devons vivre dans ce monde et nous exerçons nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu des moments où nous raisonnons, notre raisonnement est logique pour essayer de traiter différents problèmes qui surgissent. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous dirige au-delà de ces rudiments du monde et qui nous donne la véritable intelligence de Dieu qui est en Jésus-Christ pour reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, ça provient de lui et c'est par sa grâce. C'est ainsi que lorsque Christ est révélé en nous, c'est comme le moment où nous sommes pris maintenant d'être sous la tutelle du monde ou bien de la loi et nous sommes maintenant considérés comme adultes, des enfants mûrs à cause de l'œuvre de Christ. Et donc, nous ne sommes pas traités comme les autres enfants d'esclaves dans la maison qui continuent à être esclaves et en fait n'ont aucune part dans ce qui concerne l'héritage des enfants de Dieu. Alors, l'enseignement faux est selon ses principes élémentaires et non cela selon Jésus-Christ. Dans le livre des Colossiens, l'apôtre Paul indique cela dans Colossiens chapitre 2 et le verset 8. Il dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et notons sur les rudiments du monde et non sur Christ. » C'est ainsi que nous pouvons mieux comprendre alors le sens ici dans Galates 4, 3. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. C'est-à-dire, avant que Christ ne soit révélé en nous, on suivait notre pensée naturelle, on suivait ce que les hommes nous enseignaient. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous, voilà, tout a changé. Et c'est en Jésus-Christ alors que nous mourons aux principes élémentaires du monde. Dans Galates, bien dans Colossiens chapitre 2 et le verset 20, c'est écrit, « Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il y a une différence que la grâce fait en nous et on ne peut pas être toujours sous la tutelle d'un serviteur dans l'esclavage et puis en même temps dire que nous sommes maintenant mûrs en Christ. Non, il y a une différence et c'est Dieu qui fait cette différence. Alors, dans les versets 4 et 5, dans mon texte, Galates 4, 4 et 5, c'est là que nous voyons la libération des héritiers de leur esclavage. Ce que nous pouvons dire, si quelqu'un nous demande, mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et d'autres dans le monde? La réponse est simple, nous avons été libérés en tant qu'héritiers par la grâce de Dieu. Et versets 4 et 5 nous décrivent le moment de notre libération, notre jour de passage, si vous voulez, à l'adulte. C'est écrit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscissions l'adoption. Donc, ici, lorsque les temps ont été accomplis, quand vint la plénitude du temps, l'idée derrière cette expression de la plénitude du temps, ou bien quand le moment était accompli ou venu, c'est lorsque le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Ça, c'est le moment ordonné par Dieu le Père avant la fondation du monde, et il est venu selon ce que Dieu a ordonné pour la rédemption de ses élus du début du temps jusqu'à la fin des temps. Et on peut comprendre ça dans le sens que le monde était parfaitement préparé pour cette œuvre de Dieu et la venue de Christ. Bien sûr, c'était à une époque où l'Empire romain régnait et s'étendait sur la plupart de la terre civilisée. Et donc, certaines peuvent penser, mais ça n'était pas vraiment un temps propice parce que les Romains devaient être opposés à Christ et à tout ce qui représentait Christ. Mais en même temps, il faut dire que l'Empire romain préparait le monde par le commerce et par d'autres avances qui n'étaient pas connues jusque-là. Il y a des grandes routes qui étaient reliées par les Césars et des régions diverses étaient liées de manière beaucoup plus significative que au temps des Grecs. Donc, il y avait des avancements. Mais en même temps, un moment propice pour l'avancement de l'Évangile débutant avec l'œuvre de Christ. C'est aussi intéressant, on n'a pas le temps de reviser ça maintenant, mais dans le livre de Daniel, le chapitre 9 et du verset 24 à 26. Prenons le temps de regarder ça. Daniel, chapitre 9 et le verset 24 à 26. C'est là, dans la vision que Dieu a annoncé le temps qui devait dérouler jusqu'à la venue de Christ. Daniel, chapitre 9 et le verset 24 à 26. Ici, nous lisons 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Donc quand ça parle de 70 semaines et vous multipliez 70 par 7, c'est là que vous arrivez à 490 ans. Et tout cela, ce temps fixé, était jusqu'à l'arrivée de Christ et le moment où il devait être oint comme le saint des saints. Il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment, verset 25, où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, ça c'est au moment où Cyrus, le roi païen qui a conquis Babylone, a donné cet ordre pour Israël de sortir maintenant de la captivité après 70 ans. De ce moment jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, donc 7 plus 62, ça fait 69 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Notons, après les 62 semaines, ou bien ajoute les 7 semaines, ça fait 69 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Quand ça s'est écrit, un oint sera retranché, ça parle de Christ, ça parle de sa mort. Et le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Bon, là, nous savons, selon ce qui s'est passé, c'est Tite, c'était le Romain, le général qui est venu à cette époque et a détruit entièrement Jérusalem et le temple. Tout cela devait se dérouler après la mort de Christ. Donc voilà comment nous savons que ces moments ont été déjà fixés, ordonné par Dieu et prophétisé déjà. C'est pourquoi Paul dit, lorsque les temps ont été accomplis. Ça nous montre que rien ne pouvait se passer tant que Dieu lui-même ne l'avait ordonné, et lorsque c'est passé, c'est exactement comme il avait ordonné. C'est là, c'est écrit, revenons dans mon texte, dans Galates 4:4, que Dieu a envoyé son Fils. On ne peut pas ignorer la divinité qui comprend le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Donc, cela nous montre que le Seigneur Jésus est venu non seulement comme Fils de Dieu, mais aussi comme né d'une femme. Notons, ça ne dit pas né d'un homme. Ce n'est pas Joseph qui était le père de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a été créé dans le sein de Marie sans qu'il ne soit la postérité d'un homme. Il est le Fils de Dieu, mais né. Ça ne dit pas né d'un homme, mais né d'une femme, né sous la loi. Voilà le mystère de la venue de Christ, le Fils éternel de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses, mais le voilà venant maintenant dans ce monde. et ajouté à sa divinité maintenant, nous voyons son humanité. Il est devenu un homme, né d'une femme, né sous la loi. Tout cela a été nécessaire pour que le salut soit accompli pour les élus de Dieu que Dieu a déjà ordonné être ses fils. Donc, né d'une femme, ça fait une référence voilée peut-être, mais pour nous, quand on compare le reste des Écritures, ici nous voyons la vérité de la naissance vierge. Paul ne dit jamais que Jésus est né d'un homme. Le terme plus général, femme, indique que le Christ est né un vrai homme, puisqu'il est né, mais né d'une femme, c'est-à-dire placé dans le sein de Marie comme une création de Dieu lui-même. C'est comme au début du monde, Dieu a créé toute chose de néant. Christ était placé dans le sein de Marie, créé comme un homme de Dieu lui-même. Ça, c'est le mystère de la piété dont la Bible parle. Et cela a été aussi prophétisé depuis Genèse chapitre 3 et le verset 15. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, Dieu a donné cette prophétie, Genèse 3, 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est tout ce que la postérité de Satan pouvait faire, c'était de blesser le talon de Christ. Mais étant la postérité de la femme, c'est de ça que Paul se réfère ici dans Genèse, dans Galates 4. C'est Christ qui a écrasé sa tête, c'est-à-dire a gagné la victoire et a séparé ainsi ceux qui étaient véritablement ses enfants de ceux qui reste jusqu'à aujourd'hui la possibilité de Satan. Là encore, nous voyons cette division entre ceux qui sont encore sous l'esclavage. Ça représente la postérité de Satan. Et en contraste, ceux qui sont à Christ, puisqu'il a payé leur dette. Dans Galates 4 et le verset 4, ça indique, au verset 5, le but de sa venue. Christ n'est pas venu pour offrir le salut à ceux qui voulaient bien le recevoir. Non, il est venu pour racheter, verset 5, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Parce que Jésus est Dieu, donc il a le pouvoir et les moyens de racheter ceux qui ne pouvaient pas s'en débarrasser eux-mêmes de leur malédiction. C'est parce que Jésus est homme, puisqu'il est Dieu, il a le pouvoir de sauver, et puisqu'il est en même temps homme, donc il a la capacité de racheter aussi en donnant sa vie. C'est pourquoi il devait venir pour obéir parfaitement aux exigences de la loi par sa vie parfaite, mais aussi payer la dette de la loi. Et ce que la loi exigeait, c'était la mort. Dieu ne peut pas mourir, mais Christ, en tant qu'homme, est mort. Ce n'est pas Dieu qui est mort ce jour-là à la croix. Non, c'est un homme, c'est le Dieu-homme qui a rendu sa vie. Et donc, ayant satisfait tout ce que le Père a exigé, alors il a effectivement racheté chacun de ceux que le Père lui a donné. Et en même temps qu'il a racheté chacun, il les a aussi justifiés. Il y a vraiment une confusion dans les prédications aujourd'hui qui disent que oui, Christ a racheté les pécheurs, mais ils ne sont pas justifiés jusqu'à ce qu'ils croient en Christ. Non, ils étaient rachetés et justifiés. Et tous ceux qui étaient rachetés, c'est à ce temps-là qu'ils étaient libérés de l'esclavage de la loi, des exigences de la loi. Et lorsque Dieu, le temps vient que Dieu a ordonné, c'est là que l'Esprit révèle Christ dans les cœurs de ces pécheurs-là, étant déjà rachetés et justifiés. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 5, « Afin que nous recevions l'adoption comme fils. » Alors c'est pourquoi Christ a souffert, afin que nous soyons achetés, si vous voulez, hors du marché aux esclaves. Et l'œuvre de Dieu a été accomplie alors pour notre rachat, notre rédemption. Mais ça, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que c'est écrit afin que nous ressuscions l'adoption. À quel moment est-ce que nous étions adoptés comme fils de Dieu? Bien sûr, ordonnés avant la fondation du monde comme fils de Dieu, mais adoptés au moment où le prix a été payé. Et c'est ainsi que tous ceux qui sont enfants de Dieu, même ceux qui sont venus avant la croix, ceux qui doivent naître après la croix, leur point d'adoption, le moment d'adoption, était lorsque Christ est mort. Ici, certainement, Paul a en vue une coutume romaine de l'adoption aussi, où les fils adoptés recevaient des privilèges absolument égaux dans la famille et un statut égal en tant qu'héritier. Il n'y avait pas de distinction entre ceux qui étaient nés dans la famille biologiquement et ceux qui étaient adoptés. Il y a un sens dans lequel c'est une bénédiction totalement. En Christ et en Christ seul, ce n'est pas les enfants qui avaient quelque chose à faire dans leur adoption. Notons, il dit là que nous ressuscitions, nous recevons l'adoption de fils. C'est le don de Dieu. Ça ne demande pas notre coopération pour être adopté, mais c'est Dieu lui-même qui a ordonné cette adoption. Et donc, versets 6 et 7, nous voyons donc la célébration de notre filiation, où Paul dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Notons comment c'est écrit. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce n'est pas au moment où l'Esprit est envoyé et révélé dans le cœur d'un élu qu'il devient alors un fils de Dieu. Lorsque, parce que vous êtes déjà fils, Dieu ayant élu, vous a élu et Christ a déjà payé votre dette, ainsi l'Esprit est envoyé dans le cœur. Et selon l'Esprit, nous arrivons à crier Abba Père. Ainsi, verset 7, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ainsi, nous arrivons à comprendre le titre de ce message, héritier selon la grâce de Dieu. Mais il dit, puisque vous êtes fils, l'Esprit nous donne de crier Abba Père. C'est approprié que ceux qui sont en fait des fils aient l'Esprit du Fils dans leur cœur. Et voilà le mystère aussi de la grâce qui nous prend de notre aveuglement. Bien sûr, nous sommes nés dans le monde. Si Christ a déjà payé notre dette, nous sommes déjà des fils, nous sommes déjà justifiés, rachetés devant Dieu. Mais nous ne le savons pas. Il faut l'Esprit d'œuvrer dans notre cœur. Et c'est lui qui nous donne non seulement le droit de nous dire enfants de Dieu, mais la capacité de crier Abba Père. Ce mot Abba, c'est un terme très intime qui signifie papa. De pouvoir appeler Dieu notre Père, tout comme le Seigneur Jésus lui-même l'appelait Père. Quel privilège, mais dans un sens intime, papa, appeler Dieu notre papa spirituel. Alors, cela nous montre que nous avons accès à la même intimité que avec Dieu le Père, que Dieu le Fils, le Seigneur Jésus, a. Lorsque le Seigneur Jésus a adressé à Dieu le Père en disant « Papa » quand il priait « Abba », c'est ça nous voyons dans Marc chapitre 14, verset 36. Ça c'est l'importance de ce terme « Abba », parce que c'est exactement comment le Seigneur Jésus s'adressait à son Père. Marc chapitre 14 et le verset 36. Ça c'est lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané. Il disait quoi? Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était sa souffrance lorsqu'il se préparait pour aller à la croix, demandant au Père, à son papa, de le soutenir. Et notons la manière que c'est écrit aussi dans le verset 6 de Galates 4. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel, notons, crie Abba ou bien Papa Père. De crier signifie, c'est fait avec certitude, c'est avec confiance que nous pouvons effectivement l'appeler Papa. On ne pouvait pas faire ça si on était encore sous la loi, parce que on sait que nos péchés devaient nous séparer de lui. Mais Christ étant venu, Christ ayant accompli cette rédemption à la croix, c'est ça qui nous donne ce privilège de pouvoir l'appeler papa. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ainsi. J'écoute certains quand ils prient, ils s'adressent à Dieu comme Dieu, oh Dieu, ceci, oh Dieu, cela. Non, nous nous adressons à lui comme Père et Papa, qui a l'oreille, il écoute ses enfants dans leur détresse. Il écoute ses enfants lorsqu'il s'adresse à lui. C'est parce que Christ est là comme médiateur. Et donc, il n'y a rien qui sépare. Donc, cette filiation est basée entièrement sur Christ et basée entièrement sur ce que nous sommes en Jésus-Christ. Notre union avec Christ dans sa mort, c'est ça qui fait que maintenant cette voie est ouverte pour nous d'adresser, nous adresser à Dieu comme notre papa. Et ainsi, c'est parce que nous sommes héritiers par la grâce de Dieu, comme c'est écrit dans le verset 7. Si fils, alors héritier. Vous voyez comment cela suit. Il y a une belle progression. D'abord, nous sommes libérés de l'esclavage. Ensuite, nous sommes déclarés fils et adoptés dans la famille de Dieu. Et ensuite, en tant que fils, nous sommes faits héritiers. Par Christ, voilà notre libération de l'esclavage, notre filiation, l'Esprit de Jésus dans nos cœurs et notre statut d'héritier. Alors les gens demandent, mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que vous êtes enfant de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne dans nos cœurs que nous sommes en effet enfants de Dieu. Et voilà la vérité dans laquelle ceux qui sont enfants de Dieu vivent et prennent plaisir chaque jour de notre vie. Alors que le Seigneur soit loué. Amen.